Mardi 23 juin, 8h et quelques secondes, si vous nous écoutez en rediffusion, bonne fin de journée ou bien bonne matinée, c'est selon. Merci en tout cas de syntoniser CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Bienvenue dans cette édition du débrief, c'est Alexis Gagnon au micro. On commence dans quelques instants avec la revue de presse internationale. Mon nom est Alexis Gagnon, vous écoutez l'émission Le Débrief. Nous allons débuter cette édition des 22 et 23 juin avec la revue de presse internationale. On débute dans les colonnes du journal Le Monde. Yémen, la barre des 200 000 cas de choléra va être franchie. La barre des 200 000 cas de choléra devait être atteinte vendredi et celle des 300 000 durant la première semaine de juillet. Selon les prévisions des experts, le nombre de morts pourrait avoisiner les 2 000. L'épidémie de choléra au Yémen, où l'on approche des 200 000 cas, est avant tout la faute des belligérants et de leurs alliés, a déclaré jeudi 22 juin le coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, Stephen O'Brien. Le nombre de cas présumés de choléra frisait les 180 000 à la date du 20 juin et l'on dénombrait alors 1205 cas mortels, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cela est dû au conflit. C'est l'homme qui en est responsable, a déclaré Stephen O'Brien. C'est très grave. Les chiffres sont proprement ahurissants et la situation empire. L'élément choléra s'ajoute aux pénuries de vivres et de matériel médical. Et on peut rappeler que l'ONU a déclaré que la situation du Yémen était la plus grave crise humanitaire actuellement sur la planète. Et aussi rappeler que l'Arabie Saoudite, une alliée des États-Unis, du Canada et de l'OTAN, a commis de graves crimes de guerre au cours de ce conflit, en bombardant notamment des hôpitaux, des mariages, des rassemblements, des marchés et des lieux publics, faisant énormément de victimes civiles. Donc je rappelle le titre de cet article, « Yémen, la barre des 200 000 cas de choléra va être franchie ». On reste au Moyen-Orient, cette fois dans les colonnes du média Ouest France à l'adresse westfrance.fr. État islamique Moscou annonce la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. Le ministère russe des Affaires étrangères annonce ce jeudi pouvoir affirmer avec un haut degré de certitude qu'al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, est mort à la suite d'un bombardement russe sur Raqqa en Syrie à la fin du mois de mai. Depuis la semaine dernière, les forces de Russie tentaient de déterminer si le calife autoproclamé de l'État islamique avait péri dans un bombardement de l'aviation russe visant fin mai une réunion de cadres de l'organisation djihadiste dans le secteur de Raqqa en Syrie. Arabie Saoudite, dont il était question il y a quelques instants dans cette revue de presse internationale, l'ascension du prince héritier Mohammed Ben Salman. Nous avons effleuré ce sujet d'ailleurs dans la revue de presse d'hier. C'est un éditorial qui paraît dans le journal Le Monde, dans la section idées. De santé fragile, âgé de 81 ans, le roi d'Arabie Saoudite Salman a décidé que le visage de son pays au 21e siècle serait celui de l'un de ses fils, un jeune homme de 31 ans, Mohammed Ben Salman, volontiers impulsif, déjà doté de vastes pouvoirs et appelé à régner sur ce pays clé du Golfe à un moment où la région traverse de graves tensions. Ce n'est pas forcément rassurant, écrit Le Monde dans cet éditorial. Dans un décret royal mercredi 21 juin, Salman a nommé son fils, surnommé MBS, prince héritier, en lieu et place du ministre de l'Intérieur, le prince Mohammed Ben Naïef. Jusqu'alors, c'est ce dernier qui assumait la fonction de prince héritier et MBS n'était qu'en deuxième position. Mais il en va ainsi dans la maison des Saouds. Le roi décide, les princes s'inclinent. Héritage du fondateur de la dynastie de l'Arabie Saoudite moderne, le roi Saoud, le système est suffisamment opaque pour que l'on ne se risque pas à annoncer que le roi Salman pourrait bientôt se retirer pour raison de santé. Mais l'hypothèse est plausible, poursuit cet éditorial du Monde. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que MBS voit son pouvoir renforcé. Le voilà tout à la fois ministre de la Défense, vice-premier ministre, chargé de la réforme de l'économie et prince héritier. Il a la haute main sur les affaires du royaume, 31 millions d'habitants, l'un des tout premiers producteurs d'hydrocarbures du globe, allié le plus proche des États-Unis dans le monde arabe. Son frère, le prince Khaled Ben Salman, est l'ambassadeur saoudien à Washington. En politique régionale, peut-on également lire dans cet édito du Monde, MBS est un dur, il est décidé à contrer l'influence montante de l'autre puissance régionale, l'Iran. Il accuse la République islamique d'Iran de vouloir prendre la tête du monde musulman. Il perçoit la main de l'impérialisme perso-chiite en Irak, en Syrie, à Bahreïn, au Yémen et au Liban. Depuis 3 ans déjà, ministre de la Défense, il mène au Yémen une guerre dévastatrice contre une rébellion locale, celle des Houthistes, qui passe pour être soutenue par Téhéran. Sous le choc de bombardements aveugles, des millions de Yéménites sont aujourd'hui menacés de famine. Et plusieurs cas de choléra, des milliers de cas de choléra, en fait, sont recensés, on le disait juste un petit peu plus tôt dans cette édition de la revue de presse internationale. On va poursuivre, toujours en demeurant au Moyen-Orient, les USA reprendront leurs armes aux Kurdes après Raqqa. C'est dans le fil de presse de l'agence Reuters. Le secrétaire américain à la défense, James Mattis, a assuré son homologue turc que les armes sophistiquées fournies aux miliciens kurdes de Syrie pour l'offensive contre Raqqa leur seraient reprises une fois que le groupe État islamique aura été défait, a-t-on déclaré jeudi de sources turques. Dans une lettre adressée au ministre turc de la Défense, James Mattis s'engage à prévenir à l'avance Ankara des livraisons d'armes américaines aux unités de protection du peuple, les YPG, comme on appelle ces milices kurdes, et à en fournir un relevé mensuel. La Turquie, rappelle cet article de Reuters, s'est vivement opposée à l'armement des YPG, principale composante des forces démocratiques syriennes qui mènent l'offensive contre l'EI à Raqqa, car la Turquie voit dans les YPG une émanation des rebelles séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan qu'elle combat dans le sud-est turc. Le chef du Pentagone, James Mattis, aurait également promis que 80% des combattants qui reprendraient Raqqa seraient arabes. La ville, capitale de fait de l'État islamique en Syrie, n'est pas située en territoire kurde. Dans le média francophone libanais L'Orient le Jour, un article intéressant sur la situation en Libye, le titre « Ghassan Salamé accepte la mission impossible libyenne ». L'ancien ministre de la Culture libanais devra réussir s'il veut faire mieux que son prédécesseur à gérer le cas du maréchal Khalifa Haftar en Libye, un maréchal dont l'influence n'a cessé de progresser ces 2 dernières années. C'est un article écrit dans L'Orient le Jour, je le disais, par le journaliste Anthony Samrani. Il aura fallu 4 mois pour trouver un successeur à l'Allemand Martin Kobler, envoyé spécial de l'ONU en Libye. Cela donne un aperçu de l'ampleur de la tâche qui attend l'ancien ministre libanais de la Culture Ghassan Salamé, qui a été nommé à ce poste mardi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sa nomination vient clôturer une longue période de tractations diplomatiques, notamment marquée par le veto américain contre l'ancien premier ministre palestinien Salam Fayyad, qui était le premier choix du secrétaire général Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Une dizaine d'autres noms avaient été évoqués, mais les seuls à être en mesure de recevoir l'aval de l'ONU avaient préféré jeter l'éponge devant une mission jugée impossible par de nombreux diplomates. Ancien directeur de l'École des affaires internationales de Sciences Po à Paris, Ghassan Salamé aura fort à faire pour ramener toutes les parties libyennes autour de la table. Son prédécesseur avait tout misé sur un accord signé en 2015 par les membres des parlements rivaux, l'un à Tobrouk et l'autre à Tripoli, qui prévoyait la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'un conseil présidentiel pour lancer une période de transition dans un pays miné par les conflits internes depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Vous trouverez cet article, je le disais, dans le journal L'Orient le Jour, un topo intéressant et éclairant sur la situation en Libye. Europe maintenant, le Portugal en feu, chronique d'une tragédie annoncée, c'est dans les colonnes du média indépendant Mediapart, c'est signé par Philippe Ries, la forêt brûle, la forêt tue, 64 morts près de Leiria, mais quelle forêt, celle que l'industrie papetière a imposée à un Portugal intérieur dépeuplé, déshérité et oublié. Un plan de réforme de 2005 demandait déjà un nouveau paradigme. La classe politique, aujourd'hui unanime dans le compassionnel, va-t-elle enfin sortir du déni? C'est ce que demande le journaliste Philippe Ries dans cet article. Ce qu'il y a de plus étonnant dans l'épouvantable tragédie du Pedregão Grande, écrit-il, c'est qu'elle ne se soit pas produite plus tôt, puisqu'il y a désormais plus de 3 décennies que des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'hectares du territoire portugais sont consumés chaque été par le feu, pour des raisons identifiées de longue date. Les responsabilités politiques sont multiples, mais l'actuel chef du gouvernement socialiste, António Costa, se distingue pour avoir, en 2007, comme ministre de l'Intérieur à l'époque, poussé un plan de protection de la forêt qui privilégiait avant tout le combat contre le feu au détriment de la prévention. Un choix de facilité, mais un choix funeste, au propre comme au figuré. En dépit d'une légère amélioration des conditions météorologiques exceptionnelles, on sait la chaleur qui frappe l'Europe actuellement, en parenthèse, 1 million de soldats du feu, comme on les appelle, appuyés par des moyens aériens venus également d'Espagne, de France et d'Italie, combattaient toujours en début de semaine le brasier qui ravage depuis le samedi 17 juin la région de l'Aïra au centre du pays. Sur l'ensemble du territoire, quelques 4000 pompiers combattaient plus de 160 foyers, dont un majeur à Pampilhosa de Serra. Spécialiste du compassionnel compulsif, le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, s'était rendu sur place dès dimanche matin pour décréter que le maximum possible avait été fait, selon lui, et que le moment n'était pas aux interrogations. Un discours repris par l'ensemble de la classe politique, note le journaliste de Mediapart. Je rappelle le titre, « Le Portugal en feu, chronique d'une tragédie annoncée ». Ça rappelle un peu le feu de Fort McMurray, à l'issue duquel aucune question sur les causes n'avait été véritablement posée. L'ensemble de la classe politique canadienne s'était vraiment axé sur le compassionnel, expression qu'utilise à bon escient ici le journaliste de Mediapart. Italie maintenant. L'Italie est condamnée pour torture lors du sommet du G8 de 2001. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné jeudi l'Italie pour des actes de torture imputés à ses forces de l'ordre lors du 27e sommet du G8, le groupe des 8 pays les plus industrialisés qui s'était tenu en 2001 à Gênes. Une manifestation d'opposants altermondialistes avait donné lieu à de violents affrontements avec la police, faisant notamment un mort parmi les manifestants, ce pourquoi la Cour de Strasbourg a condamné l'Italie en 2001. Avant de la relaxer en appel en 2011. La condamnation porte cette fois sur le matraquage en règle subi par une centaine de manifestants lors d'une opération de la police anti-émeute dans l'école où ils étaient installés la nuit du 21 juillet. 78 d'entre eux avaient été hospitalisés. On se déplace maintenant en Amérique centrale. Guatemala, séisme de magnitude 6,8 sur la côte sud du pays. Un fort tremblement de terre a été ressenti jeudi dans la capitale du Guatemala ainsi qu'au Salvador voisin. La secousse a fait tomber des arbres, mais il n'y aurait pas de victimes ni de gros dégâts, peut-on lire dans cet article paraissant dans le portail Ouest France. Un puissant séisme de magnitude 6,8 a secoué la côte sud du Guatemala ce jeudi, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, l'USGS, à 12h31, heure universelle. L'épicentre a été localisé à 23 km au sud ouest de Puerto San José. Il a été ressenti également au Salvador, au Mexique, mais aussi au Honduras. Asie du Sud-Est, Singapour, le premier ministre accusé d'abus de pouvoir par son frère et sa sœur. C'est dans le journal Le Monde, sous la plume de Florence de Changi. Une querelle familiale aux allures de guerre de succession impliquant les héritiers de Lee Kuan Yew, le père fondateur de Singapour décédé en mars 2015, secoue la cité-État traditionnellement si policée. La soudaine et virulente attaque par son frère et sa sœur contre Lee Hsien Loong, premier ministre depuis 2004, a ahuri les Singapouriens tant elle bafoue la traditionnelle retenue, pour ne pas dire le secret, systématiquement associé à tout ce qui a trait à la toute-puissance famille Lee. Dans une longue lettre au vitriol postée sur Facebook, le frère et la sœur y accusent leur aîné de vouloir préserver la maison familiale située en plein cœur de Singapour à des fins de promotion personnelle, alors que leur père aurait souhaité que le bungalow fût détruit après sa mort. Le père fondateur de Singapour avait invoqué tant des raisons pratiques qu'une aversion contre ce genre de lieu nostalgique, mais cette vieille maison désormais inoccupée justifie-t-elle un tel scandale, demande la journaliste du journal Le Monde. Le premier ministre Lee Hsien Loong, qui est au cœur de ces attaques, s'est dit profondément attristé, mais a parlé d'affaires privées. Afrique du Sud, cette fois dans les colonnes du média international RFI à l'adresse rfi.fr, la justice autorise le vote à bulletin secret au Parlement sud-africain. En Afrique du Sud, peut-on lire sur RFI, la journée s'annonce difficile pour le président Jacob Zuma. La plus haute cour du pays vient d'autoriser un vote de défiance à bulletin secret contre le président au Parlement. L'opposition avait saisi la justice pour obtenir ce vote secret. L'opposition espère ainsi rallier à sa cause des députés de la majorité déçus et faire tomber le chef de l'État. Les partis d'opposition qui ont saisi la justice sont satisfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que la Cour impose un bulletin secret. Ça n'est pas dans son mandat. En revanche, que la Cour confirme que la présidente de l'Assemblée a ce pouvoir et précise qu'elle doit prendre une décision rationnelle, cela veut dire que si elle refuse d'autoriser un tel vote, elle va devoir s'expliquer, ce qui laisse la porte ouverte à un recours en justice. Donc voilà, si vous voulez approfondir, c'est dans le portail RFI à l'adresse rfi.fr. Et c'est sur cette actualité qu'on va clore la revue de presse internationale des 22 et 23 juin. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. Nous enchaînons dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute du débrief édition des 22 et 23 juin. Nous allons passer aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. On débute dans les pages du journal Le Devoir et on se rend immédiatement à la chronique d'Hélène Buzetti, qui est correspondante parlementaire du Devoir à Ottawa. C-44, le Sénat boude mais plie. Il n'est pas rare, écrit Hélène Buzetti, que le Sénat, après avoir tenté en vain de modifier un projet de loi gouvernemental, plie devant la légitimité démocratique supérieure des élus. Le gouvernement de Justin Trudeau veut partir en vacances en paix. Son projet de loi C-44 a été adopté intact par le Sénat jeudi matin, écartant du coup la possibilité que la mise en œuvre de son budget soit suspendue jusqu'à l'automne. Les sénateurs avertissent néanmoins que leur abdication ne doit pas être interprétée comme une acceptation de leur part qu'ils ne pourront pas à l'avenir modifier un projet de loi budgétaire. Le Sénat avait modifié le projet de loi budgétaire de Bill Morneau pour en retirer l'indexation automatique annuelle de taxes sur l'alcool et le tabac. Mercredi, la Chambre des communes a refusé ces changements au motif qu'ils enfreignent les droits et privilèges de la Chambre. Le Sénat n'a pas le droit d'initier un projet de loi ou une mesure engendrant des dépenses pour le gouvernement et l'équipe de Justin Trudeau interprète cet interdit comme signifiant que le Sénat ne peut pas modifier un budget. Furieux, les sénateurs ont voulu faire savoir leur désaccord avec cette interprétation. Ils ont donc adopté jeudi matin un message destiné à la Chambre des communes. Le Sénat n'insiste pas sur ses amendements au projet de loi C-44, mais le Sénat réaffirme son privilège, son immunité et son pouvoir de modifier les législations, quelle que soit la nature ou la provenance. Et ce message adressé à la Chambre des communes, poursuit Hélène Buzetti, a été approuvé par 50 voix contre 33. La fin de ce ping-pong parlementaire signifie que C-44 mettant en œuvre le budget 2017 est adopté. Si les sénateurs s'étaient entêtés, cette mise en œuvre aurait dû attendre en septembre puisque la Chambre des communes a déjà ajourné pour l'été. Un projet de loi doit être adopté dans une version identique par les deux chambres pour avoir force de loi. Toujours dans le fil de la presse canadienne, Journée nationale des Autochtones, l'édifice Langevin à Ottawa sera débaptisé. Pour souligner la Journée nationale des Autochtones, mercredi, Justin Trudeau a posé 3 gestes symboliques, dont 2 étaient réclamés par les Premières Nations depuis longtemps. D'abord, l'édifice où se trouve le bureau du Premier ministre, situé face à la colline du Parlement, ne sera plus appelé l'édifice Langevin. Il avait été ainsi baptisé en l'honneur de l'ancien député conservateur québécois Hector Louis Langevin, surintendant des affaires indiennes dans le cabinet du Premier ministre John A. Macdonald. Hector Louis Langevin est considéré comme l'un des architectes du système de pensionnat autochtone à la fin du 19e siècle. En février, des députés fédéraux autochtones, dont le néo-démocrate québécois Roméo Saganache, avaient demandé au gouvernement d'éliminer ce nom de Langevin de la toponymie de la colline du Parlement à Ottawa. « Nous vous avons entendu », a déclaré le Premier ministre Trudeau. « Il y a une douleur profonde suscitée par le fait que cet immeuble porte un nom si étroitement lié à l'horreur des pensionnats autochtones. Dorénavant, l'édifice, complété en 1973, en 1889 sera tout simplement connu sous le nom de Bureau du Premier ministre et du Conseil privé. Justin Trudeau a également confirmé que le 100 rue Wellington, ancien siège de l'ambassade des États-Unis à Ottawa, lui aussi face au Parlement, sera consacré d'ici 2023 aux peuples autochtones, dans une formule à définir. Cet espace, a-t-il dit, sera converti en un espace pour les autochtones, un espace que les Premières Nations, les Inuits et la nation métisse seront appelés à imaginer, à planifier et à construire, a-t-il annoncé au pied de l'édifice. Le bâtiment de pierre calcaire de style beaux-arts classique a été construit au début des années 1930 pour abriter l'ambassade des États-Unis. Le gouvernement canadien l'a acquis en 1997 et l'édifice est vacant depuis 1998. Cet édifice avait été désigné édifice fédéral du patrimoine classé en 1985. Profitant de cette journée nationale des Autochtones célébrée au solstice d'été depuis 1996, le premier ministre Trudeau a réitéré dans son discours qu'aucune autre relation n'est plus importante pour le Canada que la relation que nous entretenons avec les peuples autochtones, soit les Premières Nations, les Inuits et la nation métisse. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, s'est immédiatement réjoui de la nouvelle appellation de la journée nationale qui correspond davantage, selon lui, à la reconnaissance internationale des peuples autochtones. Vous trouverez cette nouvelle dans le fil de la presse canadienne. Journée nationale des Autochtones, l'édifice Langevin sera débaptisé. On va se déplacer dans le fil de la presse canadienne. À présent, l'ex-entraîneur Bertrand Charest est reconnu coupable de 37 chefs d'accusation. L'ancien entraîneur de ski Bertrand Charest, accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs jeunes skieuses sous sa responsabilité, a été reconnu coupable de 37 des 57 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Le verdict est tombé jeudi matin au palais de justice de Saint-Jérôme, au Québec. Bertrand Charest faisait face à 57 chefs d'accusation, notamment d'agression sexuelle et d'abus de confiance sur 12 skieuses qui étaient âgées de 12 à 19 ans au moment des crimes et des crimes allégués. Bertrand Charest a été acquitté de 18 chefs d'accusation, poursuit cet article de la presse canadienne, et la Cour a également déterminé qu'elle n'avait pas juridiction sur deux autres chefs. Les verdicts de culpabilité concernent les crimes commis sur 9 des 12 plaignantes. Plusieurs des victimes étaient présentes pour entendre la décision du juge Sylvain Lépine. Charest s'est tenu debout et a occasionnellement secoué la tête pendant que le juge s'adressait à la Cour. Les faits allégués dataient des années 1990 et se sont produits au Québec, de même qu'à Whistler, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Les crimes sont survenus avant et pendant les années où Bertrand Charest s'est occupé du développement des skieuses chez Canada Alpin, entre 1996 et 1998. Bombardier va supprimer environ 2200 emplois en Allemagne. C'est dans le fil de Reuters. Le groupe aéronautique et ferroviaire canadien Bombardier envisage de supprimer environ 2200 emplois en Allemagne, soit à peu près un quart de ses effectifs dans ce pays, dans le cadre d'un vaste plan d'économie, a déclaré une source interne à Reuters. La majorité de ces suppressions se ferait dans deux usines, l'une près de Berlin et l'autre à la frontière polonaise, a indiqué cette source. Bombardier a annoncé en 2016 deux plans de réduction de ses effectifs passant par la suppression de 7500 emplois à travers le monde, essentiellement dans ses activités de matériel de transport ferroviaire, à la suite de retards prolongés et de dépassements de coûts dans sa branche aéronautique. Bombardier, en réponse à cette nouvelle, a démenti tout projet de fermeture de sites de production, mais a refusé de s'exprimer sur l'ampleur des éventuelles réductions d'effectifs en Allemagne. On se tourne vers le journal La Presse maintenant. Des médailles canadiennes de plus en plus chères, c'est par le journaliste Gabriel Bélan. Les médailles olympiques, écrit-il, représentent la sueur, le travail et les sacrifices des athlètes canadiens, mais elles représentent aussi, pour les contribuables canadiens, des investissements de dizaines de millions de dollars et leurs coûts ne cessent d'augmenter. C'est l'un des constats d'une étude sur la stratégie canadienne pour gagner des médailles et notamment le programme À nous le podium. On peut notamment y lire que chaque médaille canadienne aux Jeux d'été nécessite environ 9 millions de dollars de financement et près de 4 millions de dollars pour les médailles des Jeux d'hiver. Ces sommes sont en constante progression alors que les pays se font la lutte pour briller aux Jeux olympiques. Alors qu'il en coûtait environ 1,7 million par médaille canadienne aux Jeux d'hiver de Salt Lake City en 2002, il fallait injecter 3,8 millions de dollars pour la même médaille 10 ans plus tard à Sochi. L'étude a été commandée par Sport Canada à une firme d'Ottawa chargée de sonder le milieu du sport canadien. Le rapport dévoilé jeudi dresse un bilan généralement positif du modèle canadien mis en place en février 2004 pour permettre au Canada de briller aux Jeux de Vancouver. Cet article de Gabriel Bellan indique aussi que ce modèle de financement des médailles créé en 2004 a notamment créé des inégalités entre les sports et au sein d'équipes d'athlètes où certains sont financés et d'autres pas. Le rapport qui avait été commandé à une firme d'Ottawa cite le cas de ces athlètes qui doivent parfois faire du couchsurfing pour participer à des compétitions ou faire eux-mêmes des campagnes de financement à leur propre initiative. Vous trouverez cet article, je le disais, dans le journal La Presse, des médailles canadiennes de plus en plus chères. Ici se clôt la revue de presse nationale pour les 22 et 23 juin. Le débrief vous revient dans quelques secondes avec la rubrique Francophonie du jour. À tout de suite. C'est le moment de passer à la rubrique Francophonie dans votre édition des 22 et 23 juin du débrief, votre rendez-vous info quotidien. On va se tourner tout de suite vers le portail de Radio-Canada Ontario. L'ACFO de London Sarnia ferme ses portes. L'Association canadienne-française de l'Ontario de London Sarnia annonce sa fermeture définitive. La décision à effet immédiat a été prise par les membres du conseil d'administration en raison de ses difficultés financières. C'est avec une immense tristesse que nous fermons les portes de l'ACFO de London Sarnia, qui a été au service de la communauté francophone pendant près de 35 ans. Après avoir étudié plusieurs solutions pour redresser l'organisme, peut-on lire dans le communiqué, nous en sommes venus à la conclusion que nous ne pouvions continuer à maintenir la viabilité de l'organisation. Le communiqué était signé par Joseph Sabinama, ancien vice-président de l'ACFO de London Sarnia. La nouvelle est toutefois loin d'être une surprise, poursuit cet article de Radio-Canada. Depuis plusieurs mois, l'ACFO de London Sarnia éprouvait des difficultés financières. L'organisme avait fermé ses bureaux en mars et avril. En janvier dernier, Radio-Canada avait révélé que l'organisme faisait face à une dette d'environ 300 000 $ auprès de l'Agence du revenu du Canada, qu'elle avait perdu la majorité de ses subventions gouvernementales et que des employés impayés menaçaient la direction de poursuite. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, estime que cette fermeture est une grande perte pour la communauté francophone du sud-ouest de la province. On trouve ça très décevant pour la communauté francophone de London et de Sarnia, a indiqué Peter Ominuk, directeur général de l'AFO. Cette association a contribué énormément dans cette communauté au cours des dernières années et c'est un organisme qui offrait énormément de services à sa communauté. Donc voilà, vous trouverez ça sur le portail ontarien de Radio-Canada, une triste nouvelle dans le sud-ouest de l'Ontario pour la francophonie locale. Le portail manitobain de Radio-Canada à présent nous informe que la FCCF est déçue du peu d'artistes de l'Ouest au jeu de la francophonie. Le choix d'artistes pour représenter le Canada au 8e jeu de la francophonie déçoit grandement la Fédération culturelle canadienne-française, la FCCF. Seuls 3 des 36 artistes qui représenteront le Canada ne sont pas issus du Québec ou du Nouveau-Brunswick, peut-on lire dans cet article. Les délégations du Canada-Québec et du Canada-Nouveau-Brunswick enverront chacune des athlètes et 12 artistes pour les représenter lors de l'événement tenu cet été à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique. La délégation du Canada comprend 9 du Québec, 2 de l'Ontario et 1 artiste du Manitoba. Le président de la FCCF, Martin Théberge, dit qu'il ne voit pas d'explication à ses choix de la part du ministère du Patrimoine canadien. Martin Théberge estime que les critères de cette sélection ne sont pas clairs et que cette situation soulève plusieurs questions sur le processus de sélection. Il déplore, par exemple, que 2 des artistes n'aient qu'un site Internet en anglais. Il se questionne sur la pertinence de choisir ces artistes qui utilisent des outils de communication en anglais pour représenter la francophonie canadienne. Le président de la FCCF estime en outre que cette sélection d'artistes envoie le message que les artistes de la francophonie hors Québec ne sont pas assez forts ou que leur expression artistique n'est pas la bonne. C'est, selon lui, un message négatif non seulement pour les artistes, mais aussi pour l'ensemble de la francophonie canadienne, alors que des artistes de l'Ouest ont déjà été médaillés, rappelle-t-il, dans des compétitions internationales de ce genre. Les prochains Jeux de la francophonie auront lieu au Nouveau-Brunswick, rappelle cet article de Radio-Canada, en 2021. Et la FCCF dit vouloir à nouveau travailler avec le gouvernement pour améliorer le processus de sélection. Martin Théberge affirme que son organisme cherche avant tout une meilleure collaboration avec le gouvernement fédéral et une meilleure représentativité au sein de la délégation. Une autre nouvelle à caractère francophone, à thématique francophone aperçue pour vous dans cette revue de presse francophone du débrief, elle nous vient du Fonds des médias du Canada. 15 productions reçoivent 8,1 millions au titre du programme de production de langue française en milieu minoritaire. C'est un communiqué daté du 21 juin que l'on peut trouver sur le site du Fonds des médias du Canada. Le Fonds des médias du Canada a annoncé l'octroi de 8,1 millions de dollars à 15 projets convergents au titre de la première ronde de financement du programme de production de langue française en milieu minoritaire. Ce programme vise à encourager les projets qui reflètent les réalités quotidiennes des collectivités francophones vivant à l'extérieur du Québec. Depuis 2010, le Fonds des médias du Canada a versé 75,4 millions de dollars à 212 projets dans le cadre de ce programme. Alors, en vous rendant sur le site du Fonds des médias du Canada, vous pourrez constater prendre connaissance de la liste des projets de langue française en milieu minoritaire qui ont reçu cet appui du Fonds des médias du Canada. Il y a notamment une production de la Colombie-Britannique, deux de l'Alberta et plusieurs autres issus de provinces hors Québec. Voilà, donc l'adresse du fonds sur le web, c'est cmf-fmc.ca si vous voulez en apprendre davantage sur ce programme. Et c'est avec cette information, nous venant du Fonds des médias du Canada, qu'on va refermer cette chronique francophonie du débrief. On vous revient dans quelques instants après la pause musicale avec la revue de presse provinciale. Restez à l'écoute.
Façon de tuer quelqu'un, la plus dangereuse c'est le coup de fusil, la plus onéreuse c'est le coup de canon, ça demande une équipe entraînée au bruit. Y a toujours la corde dite pendaison, pour le nœud coulant faut avoir le don, sûr que la noyade attire les moraux. Mais pas garanti parce que l'eau réveille. Y'a le bon vieux poison, mais là faut la dose. Pas assez tu dors, un peu trop tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaires. Mais à tout instant, gare au courant d'air. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant l'argent. Le rasoir, ma foi, cette saloperie, assez fanatique parce que c'est tranchant. La hache, le couteau et la scie aussi, mais c'est un domaine bourré d'accidents. Très peu efficace est la collision, ça brise une face, laisse des lésions. Mourir de soif, faut la volonté, le dégoût de l'eau, surtout la santé. Non, j'y tiens, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire.
suis achalandée, c'est difficile à dire. Les deux finissent en spasme, en soubresaut, en transe, mais les deux sont jolies. Le rire toujours comique, et l'autre romantique. La chaise électrique, c'est très indécent. Sauter dans le vide, pas toujours prudent. Étrangler quelqu'un, c'est perdre ses sens. Le trancher, c'est pire, c'est le sens-dessous. Non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier. L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chôme. Et puis c'est gai dans une ville, ça fait des morts qui marchent.
Nous écoutions à l'instant les 100 000 façons de tuer un homme, succès de Félix Leclerc, interprété par Christine Tassin et les imposteurs. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie. Vous écoutez l'émission Le Débrief. L'info se poursuit. C'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. On débute tout de suite avec la nouvelle de l'heure en Colombie-Britannique. L'Assemblée législative élit Steve Thompson comme président. C'est dans tous les médias de la province, y compris dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Steve Thompson devient le 38e président de l'Assemblée législative à Victoria, les députés britanno-colombiens qui siègent pour la première fois jeudi. Depuis l'élection britanno-colombienne du 9 mai, ont élu le député libéral de Kelowna Mission, qui est le seul à s'être porté candidat. Steve Thompson a démissionné de sa fonction de ministre des Forêts pour occuper ce poste dans lequel il doit être non-partisan. Le président a un rôle administratif qui consiste à assurer que les débats en chambre se déroulent de façon adéquate, rappelle cet article de Radio-Canada. Le président ne participe pas au débat et ne vote que pour briser une égalité des voix. Dans le contexte actuel où l'Assemblée législative est divisée presque également entre les libéraux qui comptent 43 députés et l'Alliance verte et néo-démocrate qui en compte 44, le rôle du président est essentiel, rappelle cet article. Les pourparlers avant l'élection de Steve Thompson au poste de président se sont avérés compliqués puisqu'aucun parti ne voulait se départir d'un précieux vote. La chef du Parti libéral Christy Clark a déjà dit qu'elle ne s'attend pas à ce que Steve Thompson reste en fonction si son gouvernement est défait lors d'un vote de confiance attendu aussitôt que la semaine prochaine. Ainsi, poursuit cet article de Radio-Canada, l'Alliance verte et néo-démocrate aurait à faire élire un nouveau président à son tour. En après-midi jeudi, la lieutenant-gouverneure générale Judith Guichon doit présenter le discours du trône, donc au moment de cette diffusion, ce sera sans doute fait. Les libéraux espèrent garder la confiance de la Chambre. Ils envisagent d'ailleurs de proposer des changements majeurs en ayant cet objectif en tête. Donc si vous lisez les médias de la province, vous savez que Christy Clark a fait un virage quasi à 180 degrés en s'inspirant du programme du Parti néo-démocrate. Elle propose maintenant des mesures sociales, notamment sur le plan de la garde d'enfants et des prestations d'assurance emploi, et cela dans l'espoir de d'obtenir des votes lors de ce vote de confiance qui aura lieu, indique cet article, la semaine prochaine. Donc si vous voulez vous mettre au fait des derniers développements, c'est dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. L'Assemblée législative de Colombie-Britannique élit Steve Thompson comme président. Mais celui-ci occupera ce rôle vraisemblablement très peu de temps, puisqu'on s'attend à ce que le gouvernement très précaire de Christy Clark tombe lors du vote de confiance. À suivre. On va aller maintenant dans le portail Huffington Post. Plus d'hospitalisations dues à l'alcool par habitant dans l'Ouest que dans l'Est du Canada. Une nouvelle étude de l'Institut canadien d'information en santé démontre que les méfaits de l'alcool qui mènent à une hospitalisation sont généralement plus présents dans les provinces de l'Ouest que dans celles de l'Est du Canada. On apprend dans ce rapport que l'alcool est à l'origine d'un plus grand nombre d'hospitalisations que les crises cardiaques. L'étude se penche sur les hospitalisations entièrement attribuables à l'alcool qui s'élèvent à 77 000 au pays en 2015-2016 comparativement à 75 000 hospitalisations à la suite d'une crise cardiaque. Cela représente une moyenne de 212 hospitalisations dues à l'alcool par jour, tandis que 13 hospitalisations par jour sont liées à une intoxication aux opioïdes, lesquelles plongent l'Ouest du Canada actuellement dans une crise sanitaire, rappelle cet article du Huffington Post. À l'exception de la Nouvelle-Écosse, toutes les provinces de l'Ouest affichent un taux d'hospitalisation sensiblement plus élevé que celle de l'Est, supérieur à la moyenne nationale de 239 hospitalisations par 100 000 habitants. C'est intéressant de noter, par ailleurs, qu'un récent article dans la presse nous avait indiqué que le tabagisme sévissait moins sévèrement dans l'ouest du Canada et cette pratique peu usitée du tabagisme dans l'ouest pouvait expliquer l'espérance de vie plus élevée dans l'Ouest et particulièrement en Colombie-Britannique. Mais on apprend maintenant que l'Ouest fait face à des problèmes d'alcool un petit peu plus accentués. Donc on se partage un petit peu entre l'Est et l'Ouest les abus. Ce sont des abus de nature différente, légèrement différente en tout cas. Voilà, on va passer maintenant dans le portail du Journal de Montréal à l'adresse journaldemontréal.com. Vancouver, la ville la plus chère au Canada pour les expatriés. Vancouver trône au sommet de la liste des villes les plus chères au Canada pour les expatriés selon l'enquête annuelle sur le coût de la vie du cabinet Mercer. La firme explique que la métropole de la Colombie-Britannique a renforcé sa position devant Toronto à cause notamment de l'augmentation plus rapide des loyers. Bien que le coût de la vie soit élevé pour les habitants de Vancouver et de Toronto, ces deux villes restent attirantes pour les employés expatriés envoyés par des organisations de l'extérieur du pays, a expliqué Gordon Frost, membre du partenariat et responsable du domaine carrière de Mercer Canada. Autre constat émanant de cette étude, les villes canadiennes ont considérablement progressé dans le classement et ce, en raison de l'appréciation du dollar canadien en 2016 par rapport au dollar américain. Ainsi, Vancouver et Toronto, suivis de Montréal et Calgary, sont en tête des villes canadiennes où le coût de la vie est le plus élevé pour les employés expatriés. Ottawa est la grande ville la moins chère au Canada, signale cet article. Et je rappelle le titre, Vancouver, la ville la plus chère au Canada pour les expatriés. Rachel Notley, de moins en moins appréciée, c'est dans le portail albertain de Radio-Canada. Chez nos voisins de l'Alberta, de moins en moins d'électeurs approuvent le travail de leur première ministre Rachel Notley, selon deux sondages publiés cette semaine. Un sondage Angus Reid estime que seuls 28% des Albertains approuvent la performance de Rachel Notley, contre 31% dans les trois enquêtes précédentes. Le taux d'approbation de la première ministre de l'Alberta a culminé à 53% juste après son élection en mai 2015, et il est en déclin depuis. Selon cette même enquête, 62% des personnes sondées désapprouvent sa performance. Les pipelines font leur retour sur le devant de la scène politique en Alberta, juge le directeur général d'Angus Reid, Shaki Curl, dans un communiqué de presse. À ses yeux, la position de Rachel Notley sur cette question est fragilisée par le résultat des élections en Colombie-Britannique. La firme Main Street estime quant à elle à 33% le taux d'approbation de Rachel Notley en Alberta, ce qui la place en queue de peloton comparativement aux autres premiers ministres provinciaux du Canada. Main Street estime que l'Ontarienne Kathleen Wynne est la moins bien placée, avec 19% d'approbation seulement, suivie de Dwight Ball à Terre-Neuve et Labrador, avec seulement 21%. Le mieux noté actuellement est le Manitobain Brian Pallister, avec 53% d'approbation dans sa province. Alors voilà, donc Rachel Notley fragilisée dans les sondages au cours des derniers mois. Elle est en déclin depuis son élection en 2015. Un été chaud arrive en Colombie-Britannique à cause d'El Niño. Vous trouverez ça dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Selon les prévisions à long terme, l'été s'annonce chaud pour la majeure partie de la Colombie-Britannique en raison notamment d'un bas niveau des glaces de mer de l'Arctique et de la formation d'un phénomène El Niño. Les britanno-colombiens, là du temps gris des derniers jours, verront le retour de températures plus élevées juste à temps pour l'arrivée officielle de l'été. Un large secteur de haute pression commencera à se former sur la côte sud mardi après-midi, ce qui doit ramener des températures plus élevées et un ciel dégagé, a expliqué la météorologiste de CBC, Joanna Wagstaff. Et d'ici la fin de semaine, poursuit cet article de Radio-Canada, certains secteurs du Grand Vancouver devraient dépasser les 25 degrés, soit des températures plus élevées que les normales de saison. Et de manière générale, peut-on lire, l'été sera chaud en raison d'El Niño, comme l'indique le titre de l'article. Petite brève sportive pour agrémenter cette revue de presse provinciale. Comme on pouvait s'y attendre, le défenseur des Canucks de Vancouver, Lucas Biza, a été sélectionné par les Golden Knights de Las Vegas, peut-on lire dans le portail planethockey.com. Le Suisse était le joueur le plus attractif qui n'avait pas été protégé par son équipe. À noter que les Golden Knights comptent actuellement 14 défenseurs, mais que selon les informations, certains d'entre eux pourraient être échangés dès le dégel de la période des transactions en fin de semaine. Et si vous voulez suivre les plus récents développements du feuilleton post-électoral de Colombie-Britannique, je vous recommande le site de Taï, un portail indépendant de Colombie-Britannique qui a d'ailleurs son quartier général ici à Victoria. Et évidemment, ils ont couvert ces récents développements, la nomination au poste de speaker ou président de l'Assemblée de Steve Thompson, un rôle qui sera de très courte durée vraisemblablement pour Steve Thompson. Néanmoins, vous aurez tous les détails et bien sûr dans les portails vicnews.com et Times Colonist, vous aurez également des papiers d'opinion, mais aussi des nouvelles faisant état des plus récents développements à l'Assemblée de Colombie-Britannique ici à Victoria. Alors voilà, c'est sur ces actualités qu'on referme le tour d'horizon des nouvelles provinciales. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On effectue une courte pause. Au retour, on s'intéresse plus précisément à la météo des prochains jours. Cette édition du débrief pour les 22 et 23 juin va prendre fin dans quelques instants, mais avant de se laisser, on va jeter un petit coup d'œil aux conditions météo. Si vous nous écoutez en fin de journée, le jeudi 22 juin, nous avons du très beau temps, ciel ensoleillé, avec un mercure qui affiche 21 degrés à l'aéroport de Victoria. Vendredi 23 juin, la prévision d'Environnement Canada sur le portail de météo.gc.ca nous annonce 25 degrés avec un soleil sans nuages et ça demeure ainsi au cours des jours suivants à peu près identique avec un crescendo des températures qui va monter jusqu'à 30 degrés pour le dimanche 25 juin. Donc ça s'annonce très beau et très chaud sur la grande région de Victoria. Vous verrez ça sur le portail d'Environnement Canada à l'adresse météo.gc.ca. Voilà, c'est déjà tout pour le débrief. Merci d'avoir accompagné ces revues de presse internationales, nationales et provinciales. On va se retrouver demain, même heure, même fréquence. Portez-vous bien.
C'est Geneviève de la Société francophone à Victoria. Vous écoutez CILFM, la radio communautaire de la francophonie à Victoria.
Désirez-vous être écrivain pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine? Écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CILFM.
Cette affiche tous les matins, aussi le soir quand elle revient, un seul désir constant. Elle a rêvé toute sa vie d'un voyage en Italie, découvrir un instant. Elle a voulu être bohème, courir sur les plaines pour s'échapper du temps. Elle se dit que la vie changera. Elle ne voit que des montagnes qui lui cachent sa villa dans la Toscane. C'était même une route monotone, va et vient les mêmes personnes, routine habituelle. Quand elle regarde par la fenêtre, elle voudrait bien disparaître, s'envoler comme l'hirondelle. Pour enfin se reposer sous les branches d'un olivier, le téléphone appelle. Tous les jours elle se dit, ma vie changera. Qu'elle oublie sa villa dans la Toscane. Un jour personne ne s'est aperçu l'absence d'une inconnue, l'hirondelle s'est envolée. Elle a décidé de tout laisser sous toutes ces montagnes de papier, un oiseau libéré. Depuis on l'appelle la bohème, elle court sur les plaines et sous les oliviers. Tous les jours elle se dit, ma vie a changé. Sous le soleil qui rayonne, sous ma villa dans la Toscane, ma villa. Dans la Toscane.
Change au rythme de la voix. On plaît, on ment, ce sont des jeux. Détruire et fuir sont nos adieux. Toutes les prières qui saignent sur le bout des doigts, murmurent des airs d'ici et ceux de là-bas. Je veux pas séduire l'ego des fous de Dieu, pas plus qu'haïr le beau, le bon, le mieux. Ciel sous nos pas, on peut la vivre comme prie un cœur quand il bat. Se taire pour faire chanter les yeux. Sourire pour desserrer des nœuds. Besoin de rien, surtout de rien de nous. J'ai rien à changer, j'ai rien à combler. Non, je ne veux rien qui soit pensé par nous. Je préfère
parler de tout, mais parle peu de lui. Les vrais rockers n'ont jamais eu de micro. Dans son lecteur CD, il n'y en a pas vieilli. Connaît les blues qui riment avec partir. Rouler vers le nord et silence infini. La forêt tout autour, un siècle s'est écoulé. Rouler vers le nord quand tout est endormi. Se retrouver tout seul, c'est le prix à payer.
Tout ce temps à rouler. Tout ce temps, quelque chose à donner. Et comme la route est longue jusqu'au bout des tournées, il peut refaire le monde sous le ciel étoilé. Il peut rouler la nuit, la musique veille sur lui.
Il connaît par cœur les saisons d'illusion. Le succès qui rend fou, qui se moque de tout. Connaît le tourbillon, le temps d'une chanson. Les feux et le néon brûlant les papillons. La scène garde pour elle ses ombres et ses mystères. Chacun son rituel dans un trait de lumière. Il emporte avec lui jusqu'au dernier appel. C'est l'hymne à l'amour des légendes immortelles.
Tout ce temps à rouler. Tout ce temps, quelque chose à donner. Et comme la route est longue jusqu'au bout des tournées, les corbeaux se répandent jusque dans ses pensées. Il peut rouler la nuit, la musique veille sur lui.
Ses minutes avant le show, c'est lui qui donne le cue. Tout le monde dans le même bateau, devant, derrière le flot. Il emporte avec lui la mémoire des ruelles. C'est une chanson rebelle qui ressemble à sa vie.
Tout ce temps à rouler. Tout ce
ce temps quelque chose à donner. Et comme la route est longue jusqu'au bout des tournées, il peut refaire le monde sous le ciel étoilé. Il peut rouler la nuit, la musique veille sur lui.
CILSFM, la voix de votre communauté.
Vous êtes à l'antenne CILSFM 107.9, votre radio communautaire francophone en Colombie-Britannique.
Allô la planète, avec Éric Lange.
Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission numéro 169 d'Allô la planète qui sera là aujourd'hui. On va tenter de joindre Igor qui est en Pologne pour discuter d'un aspect particulier du voyage, autrement dit le voyage d'affaires. Vous savez, il y a des gens qui voyagent beaucoup, ils passent leur temps dans des avions, des salles de réunion, des chambres d'hôtel et puis rebelotent dans l'autre sens. Donc ils vont dans des dizaines de pays mais... il voit des salles de réunion. C'est la vie d'Igor, on en parlera avec lui tout à l'heure. Il y a Didier qui veut nous annoncer un festival de voyageurs qui va se dérouler ce week-end. Et puis on va essayer de joindre Quentin aussi. Qu'est-ce qu'il veut faire Quentin? Il veut parler d'Elpix, de PVT, de toutes ses expériences un peu partout dans le monde. Il sera avec nous dans cette émission, c'est parti.
Allô la planète avec Chapka.
Et on file en Pologne, retrouver Igor. Bonjour Igor, bienvenue.
Oui, bonjour Eric.
Salut Igor, t'es où en Pologne? Dans quelle ville?
À Varsovie.
À Varsovie. On s'était déjà parlé dans l'émission, on avait parlé de ta passion pour le voyage, des voyages que tu montes avec ta famille et tes enfants. Voilà, comment tu partais en voiture à droite, à gauche. Et puis à la fin, on s'était dit, mince, on n'a pas eu le temps de parler du côté business des voyages. Donc c'est pour ça qu'on se rappelle...
Exactement.
Parce que toi, tu vis à moitié... Enfin, il faut nous réexpliquer, tu vis pas complètement en Pologne.
En fait, je vis la semaine. Ma famille est restée en France, et donc les week-ends, je rentre. Pas tous les week-ends, je rentre en général le week-end retrouver mon épouse et mes trois enfants.
Et tu travailles dans une usine de bonbons?
De chocolat et de bonbons, oui. Donc je m'occupe d'une usine locale de chocolat et de bonbons. Ouais. Alors le jour où j'ai annoncé ça à mes amis en France, ils m'ont regardé un peu bizarrement en disant, Igor, le chocolat, la Suisse, la Belgique, ok, bon,